Quand Pasteur Fern m'a appelé, je pense la semaine passée, pour demander si je voulais donner un témoignage, ben, j'ai dit oui, quand on peut rendre gloire au Seigneur, on le fait, right? Le Seigneur est bon, malgré toutes les circonstances, parce que la vie, on va passer à travers des choses qui sont faciles, puis d'autres qui sont difficiles, mais le Seigneur ne change pas, lui, fidèle. Amen. Pour ceux et celles qui connaissent Audriane, depuis un petit bout, ça faisait à peu près 2 ans qu'on s'avait fait dire, moi et Eric, il n'y a plus rien que vous pouvez faire pour Audriane, c'est comme ça qu'elle est, il faut juste vous l'accepter. Puis, moi, comme maman, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, tu vas ouvrir les portes, puis tu vas fermer les portes. Je sais que tu vas la guérir, je ne sais pas comment tu veux le faire, donc. Donc, j'ai dit, moi, je vais faire ce que je peux. Donc, j'ai appelé ma pédiatre, puis j'ai dit, j'aimerais avoir un deuxième opinion de médecin. Donc, c'est là qu'on a été référé à Shriners à Montréal. Puis, c'est là qu'on a vraiment vu la main du Seigneur puis la sagesse du Seigneur parce qu'on a été plusieurs fois. Je sais que ça coûtait plusieurs sous, mais ça valait la peine parce qu'on a été 4 fois. Puis, à chaque fois qu'on allait, sauf qu'Audrey était trop proche de la ligne pour avoir cette chirurgie-là. Parce qu'il avait parlé d'une chirurgie qui était la rhizotomie dorsale, qui coupe dans le dos, puis ils vont couper tous les nerfs qui sont anormales, et tous les nerfs qui ont une anomalie, qui envoient le mauvais message au cerveau, qui dit qu'il faut que tu augmentes ta tonicité, donc tu viennes plus raide. Donc, ce qui permettrait qu'à la longue, Audrey pourrait marcher. Ben, j'ai dit, Seigneur, moi au début, j'étais comme, ben, pas besoin de faire opérer, tu sais, comme... Toi, si tu comprends cette route-là, tu ne seras pas glorifié. Comme juste dit, lève-toi puis marche. C'est comme. Mais je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez le Seigneur, ben, ce n'est pas le même qui fonctionne. Lui, il a toujours une manière mystérieuse de fonctionner, puis il y a un plan qu'on ne comprend pas. Puis même si on y demande, souvent, il ne va pas nous le dire. Puis c'est OK, il veut voir si on lui fait confiance, right? Donc, c'est là qu'on était rendu. Puis finalement, j'ai reçu un appel le mercredi. Au mois de septembre, j'essaie de penser la date, là, c'était la semaine avant le 18, puisqu'on est parti le lundi le 18, donc ceux qui sont en bas dans les maths mentalement, comme Eric. En tout cas, je m'en venais de travailler, c'était le mercredi, puis j'ai eu un appel, puis c'est le chirurgien lui-même qui m'a appelé, le spécialiste. Donc, si vous êtes vu par des spécialistes, je ne sais pas si vous savez, c'est très rarement qu'on est appelé par le chirurgien lui-même ou le spécialiste lui-même. Donc, il était 5 heures notre heure, même dépassé. Donc, au Québec, il était 4 heures et quelques. Puis, quand il m'a appelé, parce qu'Audrey, il fallait que ça soit fait vite. Parce que le plus tard qu'il opère un enfant avec cette chirurgie-là, c'est l'âge de 8 ans. Puis, ça, c'est même avant qu'il faut que tu calcules la réadaptation et toutes ces choses-là. Donc, comme vous savez, Audrey a 7 ans et demi. Donc, il m'a appelé, mercredi après-midi. Il dit, Mireille, il dit, on a décidé en groupe qu'elle était une bonne candidate pour la chirurgie. Il dit, ça, c'est la bonne nouvelle. Ben, il dit, l'autre nouvelle, c'est que c'est comme la semaine prochaine. OK, ça, je m'emmenais. Puis moi, j'ai commencé un nouveau poste à l'école. Ça, j'étais comme, OK. Puis là, Audrey, je suis comme stressée, puis tout ça. Puis j'ai dit, ben, Audrey, j'ai comme pas craint le Seigneur. Ben, j'ai dit, malgré qu'on avait passé à travers de toutes ces 4 visites-là, puis qu'on allait-tu la bonne, puis passer des tests, puis voulait vraiment s'assurer. Puis moi, puis Eric, on disait, on voit vraiment la main du Seigneur. J'ai dit au chirurgien, ouf, vraiment, c'est-tu ça? Comme, il m'a répondu, puis ça m'a comme calmé. Il dit, Madame Pitt, je peux vous poser une question? J'ai dit oui. Parce que je disais, c'est-tu bien encore la bonne chose à faire? C'est une grosse chirurgie. Il dit, Madame Pitt, je vais vous poser une question. Il dit, si Audriane aurait eu un accident aujourd'hui, puis l'hôpital vous appelle, puis vous dit, entre la vie et la mort, que vous allez dire, voulez-vous la chirurgie, oui ou non? Comme maman, tu dirais oui. Il dit, parce que vous avez du temps à réfléchir, tu penses à tous les effets néfastes qui pourraient arriver. Donc, il dit, regardez, il dit, ça va être ma 361e que je vais opérer. Puis, il dit, avec ça, vous allez juste lui donner une meilleure qualité de vie. Donc, j'ai dit, OK, c'est beau, oui, book-nous, je vais nous organiser, tout ça. Donc, on est parti. Ça, c'est le mercredi, je m'en venais. Puis, en tout cas, j'ai fait mes appels. Puis, lundi, après l'école, on est parti. Donc, si vous calculez les journées, il ne restait pas grand temps. On avait le jeudi, puis il fallait qu'on déménage pour 2 mois. Donc, c'est comme ça que ça arrivait. Donc, ça, c'est le... Vous voyez Audrey assise dans l'avion à côté de papa, là, la manière... donc, c'est le début de son séjour. Je suis pas... puis, en tout ça, je suis pas certaine qu'Audrey comprenait tout ce qu'allait se passer. Puis, c'est peut-être pour le mieux. Mais la seule chose qu'on a dit à Audrey, j'ai dit, Audrey, viens ici. Elle vient ici. T'sais, on a la maison pour s'agenouiller. On s'est à Audrey, puis j'ai dit, Audrey, tu as été choisie pour avoir une chirurgie. qui va te permettre de marcher un jour. Puis sa réaction a été, « Yeah! Merci Jésus! » Puis elle a dit, « Je pourrais me rendre dans ma chambre toute seule. » Bon, ceux ici, quand elle est venue chez nous, il y a 15 marches pour monter en haut. Donc, pour elle, dans sa tête, c'était clair, net et précis, c'était ça son désir. Donc, ça a été une paix dans mon cœur. Puis j'ai pensé, « Seigneur, moi, je ne peux pas tout expliquer ça à Audrey-Anne, mais on va y aller une journée à la fois. » Donc, c'était ça le début de séjour. C'est là que ça commence. Donc, là, ici, tu as Audrey-Anne qui est à côté, à droite. Il fallait qu'elle passe une série de tests aussi deux jours avant. Puis ces deux journées-là ont été vraiment, vraiment difficiles sur Audrey-Anne. Même que, tu te rappelles, Eric, on a été dîner. Puis on dirait qu'elle voulait évanouir tellement qu'elle était demandant sur elle. Puis j'étais rendue au bout, j'étais comme, OK, il est temps qu'il l'opère, parce que si elle est malade avant, il n'a pas l'opéré, tu sais. Donc, ça a été vraiment dur sur son système. Tu pointes par là ou par là? Par là? Puis il y a le milieu, hein? OK. Donc, durant ces journées-là, on a eu plusieurs journées de préparation. Il fallait que je me costume parce que Audrey-Anne, vous savez, quand elle est rentrée à la salle d'opération, elle allait voir plein de personnes comme ça. Donc, c'est Madame Dr. Pitt en arrière. Donc, ils vont tout expliquer ce qu'allait se passer. Mais encore une fois, je ne suis pas certaine qu'Audrey-Anne savait ce qu'allait se passer encore, mais elle avait comme peur. Elle n'aimait pas me voir de même. En tout cas, j'ai dit, on ne va pas faire une grosse affaire avec ça. Ensuite de ça, ça, si je me prépare pour aller à la salle d'opération. Donc, c'est le matin de sa chirurgie. Papa et moi, autant qu'on a la foi, puis c'est pas le fun de dire bye à ton enfant à ce moment-là, on savait que ça allait être une opération de 8 à 9 heures, que Audrey-Anne allait avoir la face de coucher comme ça, comme pour ceux qui ont déjà été pour des massages, avec la face de la donut qu'on appelle, puis que quand elle allait se réveiller, nous avait préparé qu'elle allait avoir vraiment beaucoup d'enflure, qu'elle allait probablement pas se ressembler. Donc, nous autres, on donnait notre petite cocotte dans la main des médecins. Là, ça n'a pas été facile. Audrey-Anne a trouvé ça difficile. Elle a pleuré. C'est sûr, quand tu donnes ton enfant, tu ne peux pas aller de l'autre côté. Donc, ça a été la crise pour un petit bout. C'est rare que je vois Eric pleurer. Ben, Eric a trouvé ça vraiment difficile. Mais c'est là que je vois quand tu es le couple, que tu sers le Seigneur, tous les deux, on s'est mis ensemble pour pouvoir prier. Mais dans tout ce temps-là, on savait que notre église, notre famille chrétienne, puis notre famille de sang priait pour nous autres aussi. Donc, une chance. Parce que cette journée-là, on n'était pas. Ça a été une grande, grande journée. OK, c'est beau. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Après la chirurgie, je vous ai pas montré des photos tout de suite après parce que c'était pas le plus beau. Donc, Audrey-Anne a été opérée, puis elle a été restée dans l'hôpital Sick Children. Donc, c'est 5 gros hôpitaux à Montréal, collés une contre l'autre, puis 5 jours. Il fallait qu'elle soit couchée sur la bedaine, mais c'était très difficile pour Audrey-Anne parce qu'elle voulait coucher sur le côté. La morphine était beaucoup, beaucoup malade. Elle avait des rougeurs dans le visage. Elle avait un cathéter. Elle avait mal. Elle était pluguée partout. Donc, ça a été, je pense, la partie la plus difficile comme parent de voir ton enfant. Mais on avait juste hâte de passer à travers ces 5 journées-là. Puis, continuer. Pourquoi j'ai la difficulté. Pasteur Luc aussi a la misère. Hein? OK. Toujours un sourire malgré mes grands défis. Donc, ça, c'est encore à l'hôpital suite à la chirurgie. Donc, elle avait même allé apprendre à aller aux toilettes. C'est une grosse affaire, une toilette portative, là, comme vous voyez à la droite. Elle était beaucoup malade. Donc, elle lui donnait des popsicles. Donc, là, après ça, on a vu quelqu'un à la fenêtre. On était comme à la fin de notre séjour à l'hôpital, là, 5 jours. Puis, on a vu. J'étais comme ça, puis Eric dit, « Ben voyons! » Puis on a vu la face à Josée, puis c'est une tête à la fenêtre. Ben là, quand je les ai vus, vous connaissez Mireille, je m'ai planté à broyer, puis j'étais assez contente de voir ma visite surprise. C'était comme ça, m'a donné un boost. Donc, on a été chanceux, ça a donné que Cynthia puis Josée étaient à Québec, donc ils ont conduit à Montréal pour venir nous voir. Donc, ça nous a vraiment comme donné un petit pep à moi et Eric. Ben là, finalement, on est déménagé à Shriners. Après 5 jours qu'on était à l'hôpital, Audrey-Anne est encore malade. Elle vomissait encore, mais là, il y a bien tout enlevé. Plus de cathéter, plus d'affaires. Soit elle n'était plus trop branchée. Elle adore sa nouvelle chambre. Shriners, c'est un hôpital qui est moitié qui est couvert par le gouvernement, puis l'autre moitié, c'est les Shriners. Ils font des levées de fonds. Puis, c'est pour ça que l'hôpital est comme merveilleuse. Donc, les soins sont incroyables. Pas que nos soins ne sont pas bons ici, mais c'est vraiment axé sur les enfants. Donc, c'est Audrey, elle a le beau sourire. Alors, elle vient d'arriver, elle avait déjà des cadeaux. Elle recevait des cadeaux des infirmières. Donc, elle aimait beaucoup sa chambre. Ça a été un ajustement parce que quand Audrey Anne a été opérée, quand elle a coupé toutes ses nerfs-là, veut pas, elle a perdu toute la tonicité. Donc, elle était molle. Puis, je me rappelle, Eric, il fallait qu'il revienne pour le travail. Il était là pour nous accompagner les premiers 5 jours. Il est parti quand on était déménagé à Shriners. Et le premier matin, Audrey Anne se lève. Elle avait besoin d'aller aux toilettes. Puis, c'est des toilettes avec un siège. Puis, ça clipait sur la bedaine pour la soutenir pour pas qu'elle tombe. Puis elle se met à vomir hein, sur la toilette. Puis ça, c'était le temps que je la levais. So, il n'y avait, avait plus de soutien. So, toi, j'ai crié Jésus, puis j'ai halé la barre. Là, j'ai su pourquoi c'était là, cette barre-là, là, cette corde-là. Puis les infirmières avaient arrivé en courant. Donc c'était comme vraiment, il y avait vraiment des manières de la lever, des manières. On dirait que c'était comme, je veux pas, là, elle a quand même son incision dans le dos, puis il fallait vraiment faire attention. Mais je vais vous dire, ça n'a pas été long. Que Audrey Anne, il l'avait emmenée à commencer à faire la réadaptabilisation. Elle faisait 2 heures de physio par jour, 1 heure d'ergothérapie, puis le temps qu'elle avait l'école aussi, qu'elle pouvait aller, mais l'école n'était pas ouverte longtemps. Puis, autre que ça, c'est maman, il fallait qu'il fasse la thérapie avec elle, ce qui était très, très difficile, parce que ceux et celles qui ont des enfants, souvent, ne veulent pas faire des leçons avec nous autres, ils ne veulent pas faire ce qui est difficile avec nous autres, donc ça a été la crise, des pleurs. Donc, quand j'avais la visite, c'était plaisant parce que je pouvais me servir de ma visite. Donc, c'est ça, elle a fait la thérapie 6 jours/semaine, pendant 6 semaines. Malgré ça, vous voyez son sourire. Elle avait toujours un sourire, elle avait une persévérance. On n'entendait que des commentaires positifs. Puis c'est là qu'on voyait que c'était le Seigneur. Il disait, oh! On l'a baqué sur la bicyclette la première journée pour faire des exercices. Mais on a dit, on n'a jamais vu ça, un enfant qui sort de la chirurgie puis qui décolle à pédaler tout seul. Comme d'habitude, il faut qu'on la pousse un élan pour qu'elle prenne la force. Et elle a la décolle en bicyclette. D'avoir ce sourire-là, on n'a jamais vu un enfant autant souriant, autant persévérant, autant. C'était tout ça qui nous dit. C'était ça qu'on nous avait dit à la journée, mais on savait que c'était le Seigneur qui était dans Audrey Anne parce que. Moi, je suis pas encore. C'est parce que moi, j'allais être à la place à Audrey Anne, je suis pas sûre que j'allais être souriante comme ça. Donc, ça, c'est Audrey Anne qui continue sa thérapie. Donc, encore là. Oh, ça avance tout seul, je crois que tout d'un coup, je sais pas. ça, c'est une vidéo qui monte. Ça, c'était juste comme ça faisait pas longtemps qu'elle avait appris à remarcher avec sa marchette. Puis, la marchette, on appelait ça, elle était tout nue là, parce qu'elle avait quelque chose qui la tenait avant les côtés des fesses. Puis elle n'avait plus rien. Donc, on était assez excités. Puis là, c'était Anne qui filmait, je pense, quand elle était là. Puis on voit que déjà là, elle avait déjà du progrès. Puis elle voulait, parce que si je me mettais sur les mains, sur la marchette, elle disait « Non, maman, chou! » Elle voulait dire « Je suis capable, maman. » Chou, oui, c'est ça que tu disais à maman, hein, chou. L'hôpital-là avait une piscine chauffée, donc elle adorait faire la thérapie dans l'eau, ce qui est très bien. Puis parce que Audrey Anne faisait tellement bien ça, au lieu de le faire 2 fois/semaine, il l'avait augmenté à 3 fois/semaine pour Audrey Anne. Donc c'était un plus parce que ceux qui ont déjà étudié là-dedans, ça vaut 100 fois. Donc tu peux t'entraîner dans le gym ou si tu fais ta thérapie pour les enfants comme Audrey Anne, c'est 100 fois le résultat. Donc c'était un avantage pour nous autres. Mais elle avait toujours, oh, ça continue. Audrey Anne a eu des belles pantoufles à gauche. Puis pour son bras gauche, parce qu'elle a une paralysie cérébrale, elle devait dormir avec ça. Là, vous la voyez qu'elle a des sourires, mais ça n'a pas été comme ça tout le long. Ça a été très difficile. Puis c'est à ces moments-là que je me couchais le soir. Puis je disais, Seigneur, où est-ce que tu es? Parce que comme parent, voir ton enfant, parce qu'on ne voit pas les orthèses, mais ça monte jusqu'à là. Ça ressemble des bottes de ski alpin. C'est raide comme des bottes de ski alpin. Puis son bras ici, elle a une prothèse. Puis les soirs, c'était des cris de mort. J'ai eu plusieurs fois les infirmiers arrivaient en courant parce qu'ils l'entendaient de où était leur bureau. Puis j'étais comme, je la fais pas mal. Ils m'ont dit, non, voulez voir si vous étiez correct. J'étais comme, ouais. Donc, ça a été vraiment, vraiment un long processus qu'on soit capable de faire porter ça. Pour être capable, parce qu'elle a toujours la main comme ça. À cause, c'est, Oui, mais là, on veut ouvrir sa main, puis avoir une meilleure position de son bras, puis être capable d'utiliser son bras gauche, parce qu'elle ne l'utilise pas assez comme qu'elle devrait, parce que sa paralysie est affectante. Oui, c'est... Oui. Donc, c'était ça. Puis je vais vous dire... je vais continuer. Ça, c'était l'école, je ne sais pas si vous voyez. Là, elle a l'air studieuse, mais elle est comme Samir, elle est pas mal les yeux partout, puis elle a la bougeotte, là. Ça, c'est son lit le soir. Elle avait reçu un cadeau de son parent, puis elle était contente. Là, la première visite aux Shriners, mon doux, ça nous a fait du bien. On a eu ma mère puis ma tante Muriel qui sont venues nous voir. Puis, c'est ça, eux pouvaient... Heureusement, on avait la maison Ronald McDonald qu'eux pouvaient coucher. Donc, on a ri, on a broyé, on a tout fait ensemble. Mais... C'est vraiment dans ces temps-là, je pense, même que tu peux même témoigner, puis Anne pourrait. C'est quand tu es vraiment là, tu vois qu'est-ce qu'on passe à travers. Je veux dire, c'était pas facile. Même pour entraîner ma mère, il fallait qu'elle prenne le métro, puis l'autobus. So, je priais tous les soirs, et j'espère qu'elle en sera dans la... Textez-moi quand vous allez arriver, là. Oh, ça continue, je ne sais pas pourquoi. Je disais, textez-moi quand vous allez arriver, mais des fois, ils se portent bien, ça arrive en rien le matin, puis... merci aussi, on a été supportés, on a eu beaucoup de surprises de certains gens qui ne pouvaient pas venir nous voir. Donc, la famille qui ne pouvait pas venir nous voir nous a envoyé des surprises. Puis, je vais vous dire, ça, on dirait que ça arrivait tout le temps des temps qu'il fallait que ça arrive. Là, que j'étais comme, le Seigneur savait. Là. Mais on a eu toutes sortes de belles surprises dans ces temps-là. On a eu d'autres visites. On a eu mes beaux-parents qui sont venus. Avec nous autres. Ça aussi, ça fait du bien. Donc, Cora et puis Yolande. Puis la petite fille que vous voyez là, j'ai un ami de grandir que j'ai été au secondaire avec. Puis quand elle a vu qu'on était là, elle habite à Montréal, elle a venu nous visiter avec sa petite fille une soirée. Et donc, ça, c'est mes beaux-parents qui sont venus. Là, on était contente d'accueillir ma tante Anne aussi. Ça va tout seul, sorry, ça va vite, mais c'est pas grave. Anne est venue aussi pour une semaine. Elle est venue en train. Je pense qu'elle a trouvé ça plus lent son train que rester avec nous autres. Puis vous connaissez ma sœur, Anne, c'est pas une. La broyou chez nous, c'est moi. Philippe et Anne, c'est pas des broyou. Mais ça s'est donné que j'avais été. C'est ça. J'ai une amie qui avait venu me voir, puis elle voulait me sortir souper. Puis Anne a dit va souper, Mireille, ça va faire du bien. Donc mon amie Julie Laviolette, pour ceux qui la connaissent, elle avait venu me voir, elle reste à Gatineau. Puis Anne partait cette soirée-là. Puis Anne m'a envoyé un message, elle a dit « Une chance que tu n'étais pas ici » parce qu'elle dit « Je broyais ». Donc elle a dit « Ça a été beaucoup plus difficile pour toi que si que tu n'étais pas là ». Donc ça a été vraiment, ça m'a vraiment fait du bien à ma soeur parce que Anne c'est une petite tough note, puis elle poussait. Puis souvent Anne prenait les barreaux, elle disait « Mireille va prendre une marche, moi je vais m'en occuper » parce que c'était « too much » pour moi. Ah, ça c'est une petite vidéo. Ils ont joué au basketball, puis on était tous fiers de ça, je ne sais pas si ça va jouer. Oh, elle va faire un basket. On était... Ouais. So, je crois qu'on va l'inscrire dans le basketball. Là, je pèse le bouton, ça avance pas, parce que ça va venir. OK. Ça, c'est la madame que je vous avais parlé le premier dimanche qu'on est revenu. C'est une madame qui est à la phase terminale du cancer. Je l'ai vu au magasin. J'avais été, ça c'est l'hôpital où ça s'est fait opérer, donc j'avais juste été à la pharmacie chercher des médicaments pour Audriane. Puis quand je l'ai vu, cette madame-là, on s'est comme croisé, puis on a commencé à jaser. Elle, c'est ça, elle cherchait son téléphone. Puis elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais à l'hôpital, pourquoi j'étais là. Puis c'est là qu'on a commencé à parler, puis elle m'a dit, c'est elle que je vous disais qu'elle m'avait monté le moral cette journée-là. Qu'elle avait dit, moi j'ai expliqué pourquoi j'étais là, puis là, elle a dit, oh! Puis là, j'ai dit, toi, as-tu venu visiter quelqu'un? Parce que c'est l'hôpital pour les enfants. Là. Elle a dit non. Elle a dit, moi, je suis en phase terminale du cancer, du pancréas. Puis elle a dit, moi, je suis parée. Elle a dit, moi, Dieu m'attend. Elle a dit, je suis le welcome committee. Elle a dit, m'attend en haut. Soit elle a dit, je suis tout OK. Soit là, elle a dit, avant, je m'en aille voir le Seigneur. Elle a dit, je peux-tu acheter un cadeau à ta fille? Soit alors, elle a dit, c'est quoi sa couleur préférée? Puis j'ai dit, c'est bleu. Puis elle a acheté des belles boucles d'oreilles en silver bleu. Donc, ça, c'est elle qui l'a préparé. Puis, j'ai demandé de prendre une photo parce que je voulais montrer à Audrey-Anne. Ça, c'est Audrey-Anne dans son lit quand j'ai donné son cadeau. Ça, elle était pas mal contente. Donc, c'est spécial qu'est-ce que le Seigneur fait, hein? Qu'est-ce que les chants, ce n'est pas des chants, c'est le Seigneur qui a envoyé cette madame-là sur mon chemin. Ah, ça fait des amis à vie dans le milieu, elle dit que c'est son boyfriend. Puis à gauche pour au milieu, c'est des personnes qui ont eu la même chirurgie qu'Audriane. Puis je peux vous dire que ça a aidé parce qu'elle voyait qu'elle n'était pas tout seule. Puis même entre parents. La petite fille qui est là, le papa, c'est le papa, il fallait qu'il reste parce que sa maman venait visiter. Puis sa maman, ça m'a râlé de côté parce qu'elle, elle allait finir plus tôt qu'Audriane. Puis la maman m'a râlé les premières journées, puis elle a dit, je veux pas que tu te sentes mal de rien, parce qu'elle dit, moi, je suis même pas capable de le faire. Elle dit, c'est mon homme, il faut qu'il vienne. C'est trop dur sur mon système, elle saignait tout le temps, elle saignait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis son anxiété. Donc, elle, la maman, elle a décidé d'aller continuer à travailler, puis elle est juste visiter sa fille parce qu'elle est restée à Montréal. Puis c'est le papa qui a resté parce que c'était trop dur sur la maman. Donc, c'est comme ça, pour m'encourager. Puis c'était, au moins, entre parents, c'était plaisant de se voir, puis de broyer ensemble, puis rire ensemble. Puis le petit garçon-là, on communique ensemble. C'était difficile de les voir, eux. Hein? Il y avait des pins ils vont comme piner leur tête, puis mettre du poids en arrière. C'est parce qu'il y a des grosses scolioses, là. En tout cas, donc lui, ça l'appelle-tu, lui, Audriane? Comment est-ce qu'il s'appelle, à droite? C'est Darien, hein? En tout cas, donc elle, la maman, c'est une maman monoparentale, puis on a gardé le contact, puis on s'écrit encore, donc... c'est pas mal spécial. Donc, ça, c'était un de ses derniers soupers avec son boyfriend. Parce que lui, il fallait qu'il reste. Puis, son boyfriend était pas mal spécial parce que le matin qu'on devait partir, moi et Audriane, on partait, le conducteur venait nous chercher pour 5h30 le matin, puis il se levait pour venir nous dire bye. Et on lui a remis un petit toutou chien qui ressemblait à notre chien, puis il l'appelait Audriane. Donc, il couchait avec Audriane, puis le matin, il est venu nous dire bye. Donc, sa maman est venue nous voir, puis elle dit, il fallait vraiment que je mette le... Quand le réveil matin a sonné, elle dit, c'est pas d'habitude qu'il veut sortir du lit. Elle dit, maman, dépêche-toi, on va le manquer, on va les manquer, là. Donc, ça aussi, ça nous fait des amis à vie parce qu'on s'échange beaucoup de notes, autant pour les enfants, autant pour les parents. Puis, j'ai mis merci Jésus pour les bonnes thérapeutes. Donc, ça, c'est les physios qu'on voit là, les ergothérapeutes. Donc... il était vraiment en amour avec Audriane. Elle m'a dit, on n'est pas supposé avoir des préférés, mais elle m'a dit, c'est notre préféré. Puis Audriane a été choisie pour donner son témoignage. Mais vous savez, c'est moi, je l'ai donné pour Audriane. Puis elle va faire la publicité. Donc, il y a une madame qui est venue me voir. Puis elle m'a entrevuée. Ça dure à peu près 1h30. Puis j'ai eu la chance de parler du Seigneur. Puis Audriane va sortir sur les pamphlets pour promouvoir Shriners. Donc... on a eu des photos, ça c'était pas, moi je me pas, ils n'ont pas prendre la photo avec moi là, c'était juste, je l'avais amené prendre des photos là, puis merci Seigneur que j'ai eu la chance de donner mon témoignage aussi. Puis ça c'est avant qu'on retourne au Nouveau-Brunswick, là c'est l'enseignante au milieu là avec qui donne un cadeau à Audriane, puis tout le monde est venu donc à sa chambre, les préposés aux soins, la travailleuse sociale, tous les thérapeutes, donc il y avait pas mal de monde qui était là. Audriane était pas mal contente. Excusez-moi. OK, là. Puis la madame... Oh, ça, c'était avant qu'on s'en aille. Puis ça, c'était notre welcome committee à Moncton quand on est arrivé. Donc, je peux vous dire, quand j'ai ouvert la porte avec la valise puis Audriane, il y a des pleurs qui ont sorti. C'est comme si que... Je sais pas. J'ai dit, je pense que je sais pourquoi le Seigneur m'avait déjà envoyé en Afrique puis en Haïti, parce que ces deux mois-là que j'ai parti avec ma puce, ça a été les plus difficiles de ma vie. Mais pour terminer, je veux juste vous dire que à travers de tous ces deux mois-là qui ont été difficiles, je disais, c'est pas moi qui les ai pitchés, là. Je n'ai pas pitché pendant tout. Il y a une des soirées, parce que quand Audriane se couchait, moi, je préparais mon corps, je me couchais sur mon petit lit, puis je couchais vers 7h, 7h30, ben, j'allais lire ma Bible ou faire d'autres choses, mais si j'allais mettre la lumière, ça l'aurait dérangé. Puis, quand je bougeais, ça faisait squeak, squeak. Donc, qu'est-ce que tu fais, maman, où tu vas? Puis, sauf que je me couche comme ça, puis là, c'est ce temps-là, j'ai des petits updates sur Facebook. Mais c'est les soirées-là que je parle au Seigneur. Puis je dis, il y a plusieurs soirées que je pleurais, puis je dis, Seigneur, nous as-tu oublié? Seigneur, où est-ce que tu es? Puis c'est là que j'ai vu l'importance, quand j'allais à l'école du dimanche, quand j'étais jeune, que mes matantes, puis le monde, les enseignants à l'école du dimanche, me faisaient apprendre des versets par cœur. Parce que c'est ce temps-là que je récitais les promesses du Seigneur. Je récitais Ésaïe 40-31. Tous ceux et celles qui mettent leur confiance dans le Seigneur, vous allez planer comme un aigle, vous allez courir sans vous fatiguer. Mais je pensais, Seigneur, je suis là. Qu'est-ce que je fais wrong? Je répétais Jérémie 29, quand le Seigneur dit qu'il y a un plan pour tout le monde, un plan, not to harm you, but un plan pour que tu sois bien. Puis je pensais, oui, Seigneur, ton plan, Audriane, comme. Qu'est-ce que c'est? Philippiens 4-13, je fais tout pour celui qui me fortifie. Puis comment une fois, le Seigneur, je disais, Seigneur, tu ne nous en donnes pas plus que ce qu'on peut supporter. Puis je disais, Seigneur, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Mais malgré ça, le Seigneur m'a montré plein d'affaires, puis je veux le remercier, puis je veux le rendre gloire. C'est comme ça que je veux finir. Il y a une infirmière, une journée, ça allait juste pas bien, c'était un samedi. Puis cette infirmière-là, je trouvais qu'elle avait l'air comme, je veux pas être mine, mais j'étais comme fière qu'on l'avait jamais eue parce qu'elle avait l'air picasse. Puis j'ai jamais dit ça, par exemple. Puis c'était une des dernières fins de semaine qu'on était là. Puis ce samedi-là, j'avais la louange dans notre chambre parce que j'avais juste une dure journée. Audrey avait commencé ses convulsions, puis elle a rentré, puis elle a dit, sais-tu Cici, comment est-ce que ça s'appelle, José Cici, William? Comment? Elle, je ne peux pas dire, Wayne, une chrétienne. Puis j'écoutais, c'est la chanson Believe, que si j'avais eu du temps, je vous aurais fait écouter, que je l'écoutais souvent. C'était Believe for it, il faut croire que le miracle, oui, le miracle est déjà arrivé. Puis quand elle a rentré à la chambre, Chama, elle s'est assise, elle a dit, je connais cette voix-là. Elle a dit, ma mère écoute cette chanson-là. Elle a dit, c'est une chrétienne. Je dis, oui. Elle a dit, c'est bien une belle chanson, celle-là. Puis j'ai dit, ben oui, allez. Puis je ne voulais pas trop la pousser. Puis là, elle a fait les signes victoire à Audriane, puis elle restait. J'ai dit, y a-tu d'autres choses que tu voulais faire? Non. Elle restait là. Je pensais que je vais commencer à parler. Puis grande histoire courte, elle a eu Audriane cette journée-là. Puis elle a eu la chance de me partager qu'elle a servi le Seigneur, pas s'avait éloignée du Seigneur. Puis qu'elle était contente de nous avoir rencontrés. Parce qu'elle comprenait pourquoi on était toujours heureux, malgré les circonstances. Elle a dit, je voyais quelque chose en Audriane. Elle a dit, je voyais quelque chose en toi. Elle a dit, faut bien que je commence à aller à l'église. Elle a dit, ça me manque. So, on a eu la chance de parler. So, j'étais comme, sur les soirées, quand je me couchais, quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, Seigneur, si c'est pour bec, ramener une âme à toi, quand tu dis que tu laisses tes 99 brebis pour aller en chercher une, well, mes deux mois qui étaient difficiles, ça a voulu la peine. Puis l'autre affaire que le Seigneur m'a montré, c'était pendant mes deux mois qui étaient difficiles là-bas. Ça faisait déjà quelques années que je priais que le Seigneur me délivre puis qu'il faisait un breakthrough dans ma vie. Puis il m'a montré qu'il a fait deux breakthroughs pendant que j'étais là-bas, dans ma vie. Puis je veux remercier le Seigneur. Donc, malgré les difficultés de la vie, je veux juste vous encourager que... On comprendra jamais le travail du Seigneur. Puis je le comprends still pas. Puis, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on sert un Dieu qui est fidèle. Puis c'est, si moi, j'essaye de faire la manière à Mireille, c'est pas la bonne manière. Mais faisant confiance au Seigneur, qu'est-ce que lui a pour nous autres, puis lui, c'est tout ce qu'est les personnes. Puis mais qu'on soit au ciel un jour, on va en comprendre. On va comprendre, comme on dirait comme les jeunes à l'école, là, je guette. Donc, j'espère qu'on voit Chama de nouveau, qu'on verra Chama au ciel avec ses enfants. Donc, c'était ça que je voulais vous partager. Puis moi, je veux encore vous remercier comme Église de nous avoir supportés en prière. J'ai eu des prières, des messages, toutes sortes d'affaires. Je veux juste vous remercier parce que dans les temps les plus sombres, dans les temps les plus bas, le Seigneur veut qu'on soit là un pour l'autre, puis vous étiez là. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas de mot qui dit plus que ça. Puis je veux remercier le Seigneur que malgré nos difficultés, le Seigneur veut qu'on les remercie durant nos difficultés, puis même si on ne comprend rien. So, merci Seigneur qu'on a passé à travers de ça. What doesn't kill you make you stronger. Puis je sais que le Seigneur a un plan. Puis même Audrey a une coupe à manche. Je ne sais pas quoi ce Seigneur, mais il va nous sauver des vies. So, let's get ready parce que ça, c'est juste Audrey-Anne. Ben, dans toutes vos vies, le Seigneur veut nous faire des miracles. Mais prenons courage, prions pour les uns pour les autres, aimons-nous. Puis, à place de passer notre temps à essayer de comprendre ce que Dieu fait, remercions Dieu pour nos difficultés. Puis, si qu'on, comme que Pasteur Luc, c'est Rick, parce que le premier dimanche qu'on est arrivé, c'est Pasteur Luc qui prêchait, puis c'est là-dessus, qu'à travers nos difficultés, qu'il faut avoir la paix qui est incompréhensible, cette paix-là. Puis qu'être reconnaissant pour les choses qu'on a. Donc, merci encore une fois, puis merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait.
Gloire à Dieu. Amen. Seigneur répond, hein? Seigneur répond. J'espère que ça a encouragé des personnes peut-être qui passent à travers des temps difficiles. J'espère que ça vous a encouragé. Ils ont toujours été spéciales, bien sûr. Et on continue à prier pour eux, parce qu'on sait que la butte n'est pas montée au plein. Elle continue à monter et on continue à les garder. Audrey-Anne est spéciale pour nous autres, puis le Seigneur a choisi des parents spéciaux pour Audrey-Anne. Amen. Je crois vraiment ça. So, Seigneur, je te prie que tu continues, Seigneur Jésus, à faire ton œuvre à travers Audrey-Anne, Seigneur, avec Eric, avec Mireille. Seigneur, continue à faire ton œuvre, Seigneur Jésus, avec eux. Seigneur Jésus, continue à ouvrir des portes. Seigneur Jésus, qui ne seraient pas ouvertes d'habitude. Seigneur Jésus, continue à agir, Seigneur, à donner un prompt rétablissement, Seigneur Jésus, on prie. Et Seigneur, je te remercie en ton nom. Amen. 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 Gloire à Dieu. Seigneur est bon. Seigneur est bon. Alors, un court message. Court message, deux, trois petites pensées, c'est tout pour ce matin. Vous savez que ça s'en vient, hein? Ça arrive proche, là. 24 de décembre, le 25 de décembre, Noël s'en vient, les hommes, là. Je sais que les hommes sont tous prêts. Yeah, right. Les femmes sont peut-être toutes prêtes, mais les hommes ne sont pas trop prêts, je ne pense pas. Mais vous devez être prêts pour le 24 décembre, le 25 décembre, n'est-ce pas? Vous devez être prêts. Le curseur est-il dans le milieu du... Oui? Comment ça fait que ça ne marche pas, ça? On va voir le reculer de 1. Peux-tu le reculer de 1? Bon. All right. Amen. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Mais j'aimerais vous parler un court moment pour être prête de quelque chose d'autre qui est beaucoup plus important que Noël. Beaucoup plus important, je suis sûr que vous le savez déjà. Et j'aimerais vous lire une petite parabole ce matin. Une parabole que vous avez entendue plusieurs fois, mais j'aimerais qu'on pourrait la regarder, penser à trois petites choses que j'aimerais apporter à travers cette parabole. Et ça se trouve dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 1 à 13, je lis de la version de Bible du Semeur. Ce matin, j'ai trouvé que c'était une bonne version pour ça que je veux apporter. Alors, la Bible du Semeur, ou Matthieu 25, 1 à 13, si vous avez votre Bible. Si pas, vous pouvez suivre sur l'écran si ça marche. All right. Amen. Alors, ça commence avec ceci. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme des 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées. Il y a des versions qui met était folle, était insensée, et les 5 autres étaient avisées. Il y en a qui sa mère était sage. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent tous et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de céder, de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt, vous en achetez chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'enferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi il ajouta, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence déjà ici ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, qu'avec ce court message, Seigneur Jésus, que tu ouvres notre esprit. Entendre ce que toi, tu veux nous dire, Seigneur. En ton nom. Amen. Amen. Il y a une histoire qui sort du bateau Titanic, le Titanic. Une histoire qui nous dit ce qui est vrai. Qu'il y avait une madame qui était, bien sûr, effrayée dans le temps que ça échouait. Et elle a trouvé finalement sa place dans son canot de sauvetage qui était sur le point d'être mise dans l'eau, dans l'océan Atlantique. Elle pensa soudainement à quelque chose qu'elle avait de besoin. Alors elle demanda la permission de retourner à sa cabine avant qu'elle laisse aller le bateau. Alors on lui accorda 3 minutes. 3 minutes et il partirait sans elle. Alors elle courut sur le pont qui était déjà incliné à un angle vraiment pas mal dangereux. Elle courut à travers la salle de jeu qui elle aussi était inclinée à un angle qui était encore dangereux. Elle a couru à travers la salle de jeu qui avait l'argent qui était sur toutes les tables, qui avait roulé à côté, et elle arriva finalement à sa cabine. Et elle a rapidement poussé de côté ses bagues de diamants et ses bracelets d'or, ses colliers d'or, et elle a tendu la main vers l'étagère au-dessus de son lit, et elle attrapa 3 oranges. Elle a rapidement retrouvé le chemin pour le canot de sauvetage, et elle a pu monter à bord. Il semble incroyable que parce que 30 minutes avant, elle n'aurait pas choisi une caisse d'oranges au lieu des diamants et de l'or qu'il y avait là. Instantanément, les choses précieuses étaient devenues sans valeur. Et à ce moment-là, elle préféra 3 petites oranges à une caisse de diamants d'or. Il y a des événements dans la vie qui ont le pouvoir de transformer la manière que nous voyons le monde, la manière qu'on se voit. Dans cette parabole, Jésus veut illustrer une vérité. Et l'habitude, lorsqu'il y a une parabole, la parabole nous pose une question. Avec la parabole des 10 vierges, la question est, êtes-vous prête? Êtes-vous prête? On dit qu'une parabole aussi est une histoire terrestre avec un sens céleste. Comprenez? Les 2 paraboles dans Matthieu 25, celle des 10 vierges et celle des talents, expliquent le temps d'absence du Seigneur, parce que cette absence se prolonge pendant laquelle nous ne devons pas nous laisser surprendre, comme les vierges folles. Mais Jésus ne sort pas tout de suite et ne dit pas cela. Au lieu de ça, il laisse l'histoire la décrire. La femme sur le Titanic en train de couler a compris, à la lumière de sa situation, qu'elle devait se préparer à vivre sur un canot de sauvetage. Les diamants ne suffiraient pas. Seules les précieuses ressources d'un orange suffiraient. De même, dans ce monde où le Christ peut revenir à tout moment, et c'est assez souvent maintenant qu'on entend « Oh, le Seigneur vient bientôt ». C'est dans ces temps, à ces moments, que notre parabole nous avertit que nous devons être prêtes. La parabole de Jésus sur les noces n'est pas racontée du point de vue des mariés. Elle est racontée sur le point de vue des 10 jeunes filles qui avaient été invitées à cette occasion. Cinq d'entre elles étaient folles, dit Jésus, et cinq d'entre elles étaient sages. Toutes les femmes avaient de l'huile avec leurs lampes, mais cinq d'entre elles avaient un supplément, un huile plus de l'huile. Les mariages, bien sûr, dans le temps, avaient beaucoup de différences des nôtres. Dans notre société, les mariages sont annoncés beaucoup avant. Comme dans le temps aussi, comme nous, il exigeait qu'une annonce soit faite. Mais à l'époque, l'annonce du marié était juste avant le grand événement. Un messager était envoyé dans les rues et criait « Voici, l'époux s'en vient ». Alors les plus vigilants, les noces, répondaient avec « Les autres seraient laissés derrière ». Alors les plus vigilants des noces répondraient et les autres seraient laissés derrière. Dans la parabole de Jésus, le cri est venu à minuit, qui était souvent le cas dans leur temps. La plupart des mariés choisissaient de venir tard dans la nuit. Ceux qui dormaient furent réveillés. C'est alors qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe pour passer la nuit. Alors ils ont commencé à paniquer et ils ont tenté d'emprunter de l'huile des autres filles d'honneur. Mais ils ont répondu, « Nous vous donnons, non, nous ne pouvons pas nous donner votre huile, il n'y en aura pas assez pour nous. Dépêchez-vous et allez chez des vendeurs et achetez-en vous-même. » Les cinq jeunes folles se dépêchèrent donc de sortir, mais le temps qu'elles reviennent, la porte était fermée. Ils ont frappé à la porte et ont supplié de faire partie de la festivité. Mais le maître leur a dit, « Si vous aviez été prêtes, vous seriez avec nous. » Et il conclut avec, « Veillez donc. » car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Qu'est-ce que cette parabole peut nous suggérer? J'ai trois suggestions. Premièrement, merci. Certaines choses ne peuvent pas être empruntées. On ne peut pas vivre sur l'huile des autres. Comprenez? On ne peut pas vivre sur l'huile des autres. On peut bien s'entraider les uns des autres de plusieurs manières. Mais à un moment donné, c'est tout livré à nous à faire la décision. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de la foi. La foi, le chemin étroit, doit être marché avec deux personnes seulement. Vous et Dieu. Vos parents ne peuvent pas le faire pour vous. Vos parents ne peuvent pas marcher avec vous. Les maris ne peuvent pas s'appuyer sur, compter sur le dévouement de leurs femmes ou les femmes sur leurs hommes. La foi est l'expérience la plus personnelle que nous avons jamais dans la vie. La foi est personnelle. D'autres peuvent nous aider, comme on a dit. Ils peuvent nous encourager, ils peuvent prier pour nous. Ils peuvent nous avertir lorsque nous sommes dans les mauvaises voies. Mais en fin de compte, nous devons le faire nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. Les cinq jeunes filles stupides de cette histoire étaient stupides parce qu'elles pensaient qu'elles pouvaient compter sur les ressources des autres pour en sortir. Ce qu'elles ont découvert, c'est qu'il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas être empruntées. Deuxièmement, certaines choses ne peuvent pas être remises au dernier moment. Je ne sais pas ce qu'est l'assurance, toute l'assurance qu'on a pour l'Église. Je ne sais pas si on a l'assurance pour les tremblements de terre. Mais si on a un tremblement de terre, ce n'est pas le temps de rencontrer le comité et commencer à garder pour des bons prix pour avoir l'assurance des tremblements de terre. Amen. Ça doit se faire avant. Ce n'est pas des choses qu'on peut mettre à dernier moment. On n'a pas le temps de convoquer une réunion, de magasiner pour les tarifs. C'est trop tard. Comme le matin de l'examen. Le matin de l'examen n'est pas le matin pour commencer à étudier. On comprend tous qu'il y a certaines choses qui ne peuvent tout simplement pas être remises à plus tard. Mais pourtant, c'est étonnant de voir à quel point tant de personnes ne parviennent pas à saisir ce concept lorsqu'il s'agit de prendre des décisions pour la vie. Mes amis, vous ne pouvez pas faire de retraite de banque sans que vous avez d'abord mis des dépôts dans la banque. Il y a des choses qui ne peuvent pas être mises au dernier moment. Cette parabole doit être l'une des plus sévères, des plus difficiles vraiment qu'il y a dans la parole. Les mots qu'il utilise sont sévères, insensés, folle, fou, des mots qui sont sévères, qui ne sont pas prêtes, ils sont fous ou folles. Quand Matthieu a écrit cette parabole, il l'a faite pour le bien d'une église qui débordait, donc s'y était pour l'avenir. Vous vous souvenez comment est-ce que spécialement les disciples pensaient que Jésus revenait demain. Là. Ils vendaient leurs biens ils pensaient que Jésus revenait demain. Mais les premiers chrétiens, peut-être pas les disciples, mais les premiers chrétiens pensaient que Jésus revenait bientôt. Et quand il ne l'a pas fait, quand les années ont commencé à traîner, les années, les décennies, ils commençaient à continuer, et ils n'avaient pas encore venu, beaucoup ont commencé à laisser de côté toutes les choses à propos des signes des temps. Ils ont commencé à laisser ces choses de côté. Même que le Seigneur les avait avertis que seulement Dieu savait la journée. Mais ils ont commencé à laisser ces choses de côté. Et ça n'a pas empêché des gens de spéculer, de se disputer, de créer des confusions. Je trouve qu'il y en a peut-être encore aujourd'hui. Ça se dispute peut-être pas, mais ça dit, ça cause des confusions. Des fois, Jésus vient, il vient peut-être plus tard, ou bien ça cause des confusions. D'autres, quand Jésus n'est pas revenu, ont simplement renoncé à espérer en lui et ils sont retournés même dans leurs anciennes vies. Certaines choses ne changent pas. Vous vous rappelez l'année 2000, le 31 de décembre 2000, aïe, les choses qu'on t'a dit, les choses qu'on s'attendait, les ordinateurs, on ne va pas pouvoir sortir de l'argent, on ne va pas pouvoir aller sur notre ordinateur, et maintes. Pourtant, lorsque cela ne s'est pas produit, beaucoup de gens ont commencé à avoir l'air un peu stupide, insensé. Beaucoup de générateurs ont été retournés. Et les gens reprenaient la vie, et les gens prenaient la vie comme d'habitude, comme avant. Même chose nous a-t-il dit pour 9-1-1 aussi. 9-1-1, il nous disait que la journée après, ou les semaines après, les mois après, les églises étaient pleines, spécialement à New York. Les églises étaient pleines, mais beaucoup de places. Mais après un moment, ça revenait à la même chose. Pourquoi est-ce qu'il y a si tant de gens qui laissent si souvent les décisions importantes de la vie au dernier moment? Jésus a dit que c'est parce qu'ils sont insensés. C'est l'insensé qui ne peut pas voir le long de la route, qui ne peut pas voir en avant. Ce n'est pas que les jeunes filles insensées manquaient de désir. Elles voulaient être là. Elles voulaient vraiment participer à la célébration. C'est juste qu'elles n'ont pas réfléchi suffisamment. Trop souvent, nous croyons que le ciel peut attendre. Pourtant, c'est le sage qui remet pas à plus tard la question de l'éternité. Troisièmement et finalement, si nous ne sommes pas prêts, nous manquons des opportunités. Si nous ne sommes pas prêts, nous manquons des opportunités. Je serai le premier à admettre que ce thème des derniers jours a peut-être été abusé un peu au fil des ans. Mais il y a un élément authentique dans cette théologie que nous devons comprendre, et c'est un élément de jugement. Il y a un élément de jugement dans cette parabole. Quand les jeunes filles folles sont arrivées à la fête, on a dit « la porte est fermée ». Lorsque je lis ça, ça me fait souvenir à l'arche de Noé, n'est-ce pas? Noé avait préparé l'arche, Noé avait fait rentrer ses familles, les animaux. À un moment donné, la porte a été fermée. La porte a été fermée. Plusieurs sont venus frapper à la porte. Plusieurs qui criaient. Mais le Seigneur, ça nous dit dans la parole, la porte était fermée. Ce sont des images du jugement de Dieu. Il nous rappelle que la porte que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Dans cette simple parabole, Jésus nous parle de la tragédie de la vie non préparée. Jésus a dit que nous devons toujours être prêts, car personne ne connaît l'heure ni le jour. La meilleure manière de se préparer pour demain, c'est d'être prêt aujourd'hui. Être prêt aujourd'hui. Un moment viendra où il n'y aura plus de préparation possible. Alors, serez-vous prêts? Trois petites pensées en finissant, en concluant. Comment vous préparer? Premièrement, donnez-lui votre cœur. Donnez votre cœur au Seigneur pour être prête. Romains 10, 9 nous dit, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Tu seras sauvé. Si vous n'avez jamais accepté le Seigneur dans vos vies, je prie que vous le fassiez, que vous ouvriez votre bouche et vous lui donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur. Vous ne pouvez pas contrôler votre... La plupart du monde ne peut pas contrôler leur vie. Mais lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, lui prend contrôle. Il nous montre le chemin. Amen. On déclare qu'on le met Seigneur de nos vies. On veut entendre de lui. On veut parler de lui. On veut le connaître de plus en plus. Alors j'espère et je prie que vous donniez votre cœur au Seigneur. Et deuxièmement, après que vous aurez fait ça, deuxièmement, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Apocalypse 2, 7 nous dit, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Au vainqueur, n'ayez pas peur. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Alléluia, le Seigneur est là. Il y en a encore qui pensent, ils ont peur que le Seigneur revienne. Moi, j'ai hâte. Je suis sûr que vous autres aussi. Amen. On a hâte que le Seigneur revienne. Amen. Alors, au vainqueur, il va donner la vie éternelle. Et finalement, troisièmement, persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Jacques 1, 12 nous dit, « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. C'est car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Amen. Amen. On doit continuer à persévérer. Malgré les difficultés parfois, malgré les montagnes qu'on a besoin de monter, malgré les maladies qu'on a souvent, il faut persévérer. Persévérer dans la prière, persévérer à s'aimer les uns les autres, à s'aider les uns les autres, persévérer à suivre le Seigneur et à comprendre de lui. Amen. Alors j'espère que vous êtes prêtes pour Noël, mais j'espère que vous êtes encore plus prêtes pour la venue du Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Père.